Tontos.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Milo, de l'émission qui, chaque semaine, eh bien, vous propose un petit tour d'horizon des sorties du moment. Et là, comme il y a eu une première coupure dans cette saison, due en partie aux vacances de la Toussaint et puis à Nevers à Vif, eh bien aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous présenter. 7 heures ne suffira pas à tout vous présenter aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein, j'en garde un petit peu sous la main pour la semaine prochaine. Mais le programme s'avère bien chargé, d'autant qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons un joli programme avec de belles choses qui sont arrivées dans les bacs ce vendredi 8 novembre. Et la principale, celle qui va être, on va dire, mon coup de cœur de cette émission, eh bien, c'est le nouvel album de Lofofora. Alors, certains diront peut-être que je vais manquer d'objectivité, puisque Lofofora, c'est un des groupes que j'adore depuis maintenant très longtemps. Mais l'album est très réussi, donc voilà, je vous en dirai du bien dans quelques minutes. Et puis sinon, pour ce qui est du reste, on aura du metal symphonique, on aura du hardcore, du heavy metal, du hard rock aussi, et puis même du post-metal d'ici la fin d'émission, qui se terminera, comme d'habitude, par une reprise. Et aujourd'hui, on va casser un petit peu les codes dans la rubrique Sortez Cover, mais ça, ce sera bien plus tard, ce sera pour conclure l'émission. Venons-en donc, si vous le voulez bien, à cet album à retenir en ce vendredi 8 novembre, enfin du moins celui qui est mon coup de cœur de cette émission. C'est le nouvel album de Lofofora qui s'appelle Vanité. Alors, Lofofora, bien sûr, groupe évident pour ceux qui ont suivi la scène métal depuis le milieu des années 90, ceux qui aimaient la scène métal rock française, vous n'avez pas pu passer à côté de Lofofora qui ont été un peu les pères fondateur de ce qui est devenu le métal français. C'est un groupe qui a été formé en 89, qui a déjà 30 ans, hein, Lofofora, du côté de Paris, qui a été créé sous l'impulsion, entre autres, de Renaud Auchan. Renaud, est-il encore besoin de le présenter ? Renaud, que j'avais eu le plaisir, et ça, à chaque fois, je m'en vanterai. Aussi longtemps que je ferai de la radio, je me vanterai de ce moment, puisque ça a été un moment de joie inoubliable. Renaud est venu dans ses studios il y a à peu près 2 ans, grâce au Tambour du Bronx, que je remercie encore pour leur nouveau projet, enfin leur projet métal. Il était venu avec Stéphane Burier et puis avec Frankie Costanza. Donc vous voyez, on a eu du très très beau monde ce jour-là dans les studios. Et à l'époque, il nous avait présenté l'album acoustique de Lofo qui était sorti quelques semaines plus tard. Bon, dans Lofofora, il n'y a pas chrono, hein. À l'époque de la formation, il y a aussi Phil Curti qui est à la basse, qui est toujours là à l'heure actuelle. D'ailleurs, à l'heure actuelle, le reste du line-up, il se compose de Daniel Dessieux, qui est à la guitare depuis un bon moment, puisqu'il est arrivé en 2001. Et puis, à la batterie, c'est Vincent Ernaud qui vient de reprendre du service, puisque, souvenez-vous, il avait laissé ses baguettes quelque temps à Kevin Foley. Lofofora, c'est quoi? Eh bien, on pourrait dire tout simplement que c'est du rock. Un rock qui puise ses influences aussi bien dans le punk, dans le metal, la fusion, le hip-hop. Et Lofo va devenir, à la fin des années 90, un des fers de lance de cette scène rock-metal française qui va être à ce moment-là en pleine expansion, qui va voir naître à la même époque Mass Hysteria, No One Is Innocent, Watcha. Des groupes qui vont pas hésiter à fusionner les genres, à briser les codes, et aussi des groupes qui vont avoir des textes pourvus d'une conscience sociale extrêmement forte. C'est des groupes qui parleront pas à travers et tout en sachant mettre un feu d'enfer dans les concerts, quoi. C'est à la fois des bêtes de studio et des bêtes de live. Lofo va sortir son premier album éponyme en 95, sur lequel on trouve déjà quelques classiques, hein, comme Love, comme Holiday in France, que tout le monde connaît, que tout le monde attend pendant les concerts. Un an plus tard, c'est l'album Peu. Alors moi, perso, c'est avec cet album-là que je les ai découverts. Peu, ça va faire gagner une belle popularité au groupe, grâce à des titres incontournables, hein. Je vais vous en citer deux. Je vais vous citer Amnesty Story, et puis Macho Blues. Et puis, je pourrais rajouter aussi la reprise incendiaire du Vive le Feu des Berrues, qui est génialissime sur l'album de Lofofora. Le troisième album, ce sera Dur comme fer. Là, on est en 99. Il sera suivi en 2003 de Le Fond et la Forme. Il y aura Les choses qui nous dérangent en 2005. Alors, cet album-là, il contient le fameux morceau Buvez du cul qui fait le bonheur des fans pendant les concerts. Et puis, la suite de la disco du groupe, c'est Mémoire de singe en 2007, Monstre ordinaire en 2011 et puis L'épreuve du contraire en 2014. Pour en arriver à cette parenthèse acoustique totalement réussie que fut Simple Appareil en 2018, donc que Renaud nous avait présenté ici. Et cette parenthèse refermée, ça y est, Lofo a rebranché les amplis pour cet album Vanité qui sort aujourd'hui. Et il nous balance pleine face, ce Vanité qui sonne presque comme un retour aux sources pour Renaud et sa bande. Car oui, pour cette offrande qui célèbre les 30 ans du groupe, Lofo a misé sur ce qui a forgé son identité, à savoir l'efficacité, le groove, la sincérité et puis surtout la liberté de concevoir le rock comme bon leur semble, sans compromis. Et je vous jure que ça fait un bien fou. Alors Vanité va rappeler aux nostalgiques la grande époque de Peu, de Dur comme fer, de Le Fond et la Forme, trois albums qui ont quand même marqué au fer rouge la carrière du combo parisien. Musicalement parlant, la Vanité c'est aussi une production d'une puissance incroyable. Chaque instrument est parfaitement mis en valeur pour que la déflagration sonore emplisse nos oreilles de bonheur. Quant à Renaud, encore une fois, je tarirai pas d'éloge sur sa plume qui est aussi fine qu'acérée, sur sa verve aussi qui est presque digne d'un Gainsbourg. À travers Vanité, c'est la comédie humaine dans sa bêtise, son pathétisme et son égoïsme que nous dépeint Renaud, toujours avec cette même perspicacité qui donne à réfléchir quoi quand on écoute la musique de Lofo. Des lâches qui se planquent derrière leur écran pour se déchaîner sur le web jusqu'aux machos qui se croient supérieurs. Aucun n'est épargné pour ce grand bûcher des vanités. D'ailleurs, pour dire quelques mots sur le titre de l'album et sur son artwork, sachez qu'une vanité, en fait, c'est un terme pictural qui désigne une nature morte, qui représente une allégorie de la mort, du passage du temps et de la vacuité des passions et des activités humaines. Je crois que ça résume bien la chose. Il est temps de passer à la découverte de cet album Vanité avec un premier titre. Il y en aura deux dans l'émission, je l'annonce d'ores et déjà. Et le premier morceau que j'avais envie de partager avec vous, c'est Le Venin. Voici tout de suite Lofofora. We'll be right back.
planté dans le décor quand tu n'es qu'un caillou planqué dans ma chaussure. Fais gaffe dans le bayou, y'a des alligators et dans la rue. Y'a pas de modérateur pour te mettre sur la voie et gommer tes ratures. Aucun recours auprès de l'opérateur quand t'appelles au secours, tous les réseaux saturent. 4999 amis à qui tu crois prendre la vie. Et quelques millions d'abrutis à humilier pour te sentir moins petit. Quand tu y arrives, quand tu sens les frappes, tu sens éclabousse.
Lofofora à l'instant avec le titre Le Venin, extrait de l'album Vanité qui paraît aujourd'hui. C'est mon coup de cœur du jour et c'est un album que je vous conseille absolument d'aller écouter, de vous le procurer si vous êtes fan. En plus, l'artwork est vraiment très chouette. C'est une très belle réussite que ce nouvel album de Lofofora qui fête ses 30 ans avec panache. Et voilà, c'est encore nerveux, c'est encore conscient. Enfin, c'est vraiment le rock dans tout ce qu'il a de libre. Et voilà, c'est ça l'essence du rock'n'roll aussi. Bravo à Lofofora, en tout cas moi je continue de les adorer. Alors c'est vrai qu'en plus ça c'est un album auquel on adhère dès la première écoute. Je suis d'accord pour dire qu'il y a eu quelques disques qui se méritaient un petit peu plus, où fallait 3-4 écoutes avant de vraiment en apprécier l'essence. Là, c'est instantané, les morceaux restent dans la tête tout de suite. Donc voilà, très très bon album de nos lofo préférés. On change de style, on change de lieu, on part du côté de l'Allemagne. Et là, on va oublier un petit peu les guitares pour s'intéresser à un projet symphonique. Un projet de Blind Guardian Twilight Orchestra et un projet qui a pour titre Legacy of the Darklands. Alors, Blind Guardian Twilight Orchestra, c'est juste le nom qu'a pris Blind Guardian pour cet album, alors qui sera peut-être une série d'albums, je sais pas. Mais pas eu beaucoup de changements, c'est toujours ce Blind Guardian qu'on connaît, qui nous vient de Krefeld, pas très loin de Düsseldorf donc, qui a été créé en 84, sous le nom à l'époque de Lucifer's Heritage, groupe créé sous l'impulsion notamment du chanteur Hansi Kirch et du guitariste André Olbrich, qui sont encore à l'heure actuelle les deux leaders du groupe. Quant au reste du line-up, eh bien, il se compose du guitariste Marcus Siepen et du batteur Frédéric Hemke. Alors, Blind Guardian, c'est du power metal symphonique. Depuis ses débuts, l'univers du combo tourne énormément autour de l'heroic fantasy et plus particulièrement la littérature de Tolkien, alors qui est présente du nom du groupe jusque dans une bonne partie de sa discographie. Mais pas que, puisque Blind Guardian a d'autres sources d'inspiration, parmi lesquelles Frank Herbert, Michael Moorcock, Walter Morse ou encore le maître de l'horreur et du fantastique Stephen King, qui est mon auteur préféré, donc ça m'aurait embêté de ne pas le citer. Blind Guardian a écrit d'après les Tommyknockers, si je vous dis pas de bêtises, à rechercher dans leur discographie. Alors en 88, justement, puisqu'on est sur la discographie, le groupe sort son premier album, c'est Battalions of Fear, mais c'est au milieu des années 90 que le combo va commencer à susciter un réel engouement. Parmi ses albums phares, on peut citer Imagination from the Other Side en 95, Nightfall in Middle Earth en 98, qui est mon favori, ou encore A Night at the Opera, paru en 2002, trois productions qui reflètent très bien le style musical du groupe, qui se caractérise par des morceaux mélodiques, rapides, souvent très épiques, qui peuvent rappeler aussi bien des formations comme Halloween, Iron Maiden, ou même comme Queen, hein, qui a aussi son importance dans le style musical de Blind Guardian. Concernant le reste de sa discographie, le groupe possède désormais à son actif 11 albums studio. D'ailleurs, on trouve, outre ce que les albums que je vous ai cités, d'autres très belles pièces, comme par exemple Beyond the Red Mirror, qui était paru en 2015 et qui était jusqu'à aujourd'hui leur dernier album en date. Mais revenons à leur actu, puisque aujourd'hui c'est un grand jour pour Blind Guardian, qui après 20 ans d'attente sort enfin son pharaonique projet estampillé Blind Guardian Twilight Orchestra, donc intitulé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Legacy of the Darklands, qui est un opus de 75 minutes entièrement symphonique, qui a été enregistré avec l'orchestre philharmonique de Prague, très célèbre pour son travail en matière de bande-son pour le cinéma. Alors c'est ça qui a constitué un des gros problèmes de cet album, ça a été de trouver un orchestre et surtout le bon chef d'orchestre pour le diriger, et ça a pris vraiment des années, donc voilà, c'est pour ça que l'album était en projet depuis longtemps, mais c'était très très compliqué de le concrétiser. Quant aux paroles des morceaux qui composent ce nouveau disque, eh bien, elles sont basées sur un roman d'un auteur fantastique allemand qui s'appelle Marcus Heitz. Le fameux roman en question s'intitule Les Terres Sombres et il est paru il y a seulement quelques mois. Donc là encore, difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que les paroles, elles ont été écrites il y a très très peu de temps. Alors bien sûr, il y avait déjà les musiques de composer, il y avait déjà des lignes de chant, mais il n'y avait pas de paroles. Donc ils se sont mis quand même beaucoup de complications, hein, les Blind Guardian, pour cet album. Donc l'histoire, elle nous plonge en pleine guerre de 30 ans, la guerre de 30 ans c'était au XVIIe siècle, et on suit les aventures de Nicolas, un mercenaire qui n'est autre en fait que le premier cavalier de l'Apocalypse. Alors je vous dis que ça pour le pitch, parce que le mieux c'est que vous alliez découvrir vous-même, sinon ça n'a aucun intérêt. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'attente fut longue, mais le résultat est assez époustouflant. C'est épique, majestueux, l'orchestration est vraiment impressionnante. Legacy of the Darklands, c'est un album qui est digne d'une bande originale, d'une grosse production hollywoodienne, et on pourrait même imaginer un jour voir un film apparaître. Enfin voilà, là je vais peut-être un peu loin, mais c'est pas ridicule, pourquoi pas. Ils aiment les défis et ils sont assez capables, je pense, d'en faire quelque chose. Voici donc un extrait de Legacy of the Darklands par Blind Guardian Twilight Orchestra, avec un morceau qui s'appelle Point of No Return. C'est tout de suite, c'est sur Back FM.
It's good, unleash the beast. Hurry up, hurry up, hurry up. At least I'm trying. My mind, it tends to slip away. Such wisdom and a madman's gaze. Faces and places, dark ages and pages. Yet everything it shall go down. Sun
Let your senses roam to another world while the chains are on.
Hold this precious stone, do not wait, my son. Leave this what you know, find the key to be free.
Seven plagues now grow.
This steed meets trouble.
Make sure there's no more magic, but black magic. No one else should know.
Oh.
We must obstruct their ways discreetly.
Take hold of the flame. Take part in my revenge. Now enter the storm. Take hold. Flame and the bell chimes no more.
It's time to kill the spark, and I think it's time to kill them all. Oh, watch, the trial of man has begun. It has begun. We'll make them believe.
Our reign lasts forevermore. No guiding light, no sacred light.
It's over now.
voyez, je vous avais pas menti hein, quand je vous disais que c'était majestueux, épique. C'était Blind Guardian Twilight Orchestra avec un extrait de leur nouveau disque Legacy of the Darklands, disque totalement symphonique dont on vient d'écouter une pièce ici avec Point of No Returns. Je crois que le morceau n'est pas entier. Enfin non, c'est pas que je crois, c'est que je suis sûr que le morceau n'est pas entier parce que les pièces sont très longues. Et bah voilà, si on l'écoute entièrement, on n'aura pas le temps de s'intéresser aux autres artistes. Mais en tout cas, ça sort aujourd'hui et je vous engage vivement à aller y jeter une oreille attentive. On va changer radicalement encore de style. Là, on va aller sur du hardcore avec des légendes du genre, puisque aujourd'hui, Agnostic Front sort son nouvel album qui s'appelle Get Loud. Alors, Agnostic Front, c'est un groupe new-yorkais fondé en 82 par le guitariste Vinny Stigma, mais c'est sa rencontre avec le chanteur Roger Murrett qui va constituer le véritable point de départ de cette longue carrière qui, malgré, il faut le dire, des hauts et des bas ainsi que d'incessants changements de musiciens, va faire d'Agnostic Front un groupe mythique de la scène hardcore new-yorkaise. Avec son punk hardcore aux influences crossover trash, Agnostic Front fait effectivement partie des pionniers de cette fameuse scène new-yorkaise, qui verra également émerger un petit peu plus tard des combos comme Sick of It All ou encore Madball, mais voilà, ça ce sera un peu plus tard dans les années 80. Après la sortie d'un premier mini-album qui s'appelait United Blood en 83, Agnostic Front sort en 84 l'album Victim in Pain, un véritable missile de seulement 15 minutes mais qui est considéré aujourd'hui comme un classique du punk hardcore et qui permet à l'époque au combo de partager l'affiche avec Minor Threat, Dead Kennedy ou Black Flag. Alors malgré ce départ prometteur, l'enregistrement de l'album suivant va se dérouler dans une ambiance délétère et c'est vraiment dans la douleur hein, que va sortir en 86 Cause for Alarm, qui va être un gros succès mais qui voit le combo prendre une direction beaucoup plus métal. Après la sortie de Liberty and Justice for en 87 et puis du Live at the CBGB's en 89, Agnostic Front va être contraint de faire un break. Alors c'est dû en partie à l'incarcération de Roger Murrett et à sa sortie, eh bien le chanteur va éprouver le besoin de faire partager son expérience à travers un album qui s'appelle One Voice qui sort en 92, mais bah, cette fois-ci le succès est pas au rendez-vous et après une tournée d'adieu et un ultime live, Agnostic Front va se séparer pour se reformer finalement en 98. Là, ils vont renouer avec le punk hardcore de leur début, comme va en témoigner par exemple l'album Something Gonna Give. Et depuis, eh bien, Agnostic Front a enchaîné avec Riot Riot Upstarts en 99, Dead Yuppies en 2001, Another Voice en 2004, Warriors en 2016, My Life My Way en 2011 et The American Dream Died en 2015, qui surfait brillamment entre hardcore old school et modernité. Et puis enfin, aujourd'hui, nos légendes du hardcore Made in New York, eh bien, ils sont de retour avec un nouvel uppercut sonore très justement intitulé Get Loud. Alors, bien que le climat sociopolitique se soit considérablement transformé depuis les débuts du combo dans les années 80, les concepts de base de la corruption politique et des troubles sociaux, eux, sont toujours bien d'actualité, voire même se sont malheureusement décuplés. Et avec eux, eh bien, l'essence même de la révolte d'Agnostic Front, une rage qu'on retrouve intacte dans Get Loud et dans ces 14 brûlots de punk hardcore authentique articulés autour des riffs imparables et ravageurs de Vinny Stigma et de la voix inimitable de Roger Murrett. À noter que l'artwork qui est signé par Sean Taggart, à qui on doit la pochette de l'incontournable Cause for Alarm de 86, qui est leur album peut-être de référence. Voici tout de suite un extrait de Get Loud qui paraît aujourd'hui et on écoute le titre Spray Painted Walls. We'll be right back. Agnostic Front avec un extrait de Get Loud qui paraît aujourd'hui. Vous êtes sur Bike FM dans l'émission Check Me Loud et vous venez d'écouter le titre Spray Painted Walls du bon hardcore made in New York comme on l'aime. C'est eux un peu qui ont forgé le son et voilà, ils sont vraiment au top sur cet album qui est très réussi, qui est un peu dans la lignée de The American Dream Died et qui va faire le bonheur des prochains concerts du groupe. Je pense que dans la fosse ça va être chaud bouillant. On va revenir à un heavy metal un peu près à un groupe encore plus vieux qu'Agnostic Front d'ailleurs, puisque là on va partir du côté de Londres dans les années 70 avec Angel Witch. Le groupe est toujours d'actualité puisque il a sorti la semaine dernière 1er novembre un nouvel album intitulé Angel of Light, mais pour eux ça a été relativement compliqué depuis leur formation jusqu'à aujourd'hui. Je vous expliquer un petit peu tout ça parce que Angel Witch a beaucoup compté mais on l'a beaucoup oublié et c'est un petit peu injuste. Donc ça commence à Londres en 1976, c'est un groupe qui va d'abord s'appeler Lucifer et qui après un remaniement de line-up va être baptisé Angel Witch. Alors de cette époque aujourd'hui il va rester qu'un seul membre fondateur, il s'agit du chanteur-guitariste Kevin Ayborn et il faut dire qu'après des débuts extrêmement prometteurs et bien la carrière d'Angel Witch est vite devenue chaotique. Le groupe a en effet connu plusieurs périodes de séparation et puis aussi d'innombrables changements de musiciens, il y en a une liste assez impressionnante. À ce jour, il se compose donc de Kevin Ayborn au chant à la guitare, de Will Palmer à la basse, de Jimmy Martin à la seconde guitare et de Fredrik Jensen à la batterie. Alors, Angel Witch, c'est du heavy metal, et si le groupe a pas eu la chance de connaître le même succès et la même popularité qu'Iron Maiden, Judas Priest ou Saxon, il en est pas moins une des figures de proue de la New Wave of British Heavy Metal, à tel point que Lars Ulrich de Metallica ou Dave Mustaine de Megadeth revendiquent le combo londonien comme influence majeure, hein. D'ailleurs surtout Lars Ulrich qui revient souvent. Bien que le groupe existe depuis plus de 40 ans, son parcours marqué de nombreuses et parfois longues périodes d'inactivité fait que sa discographie compte en tout que 5 albums studio, dont 3 qui sont sortis entre le début et le milieu des années 80, la grande époque de la New Wave of British Heavy Metal. C'est d'ailleurs en apparaissant sur une compile consacrée à de tout jeunes groupes issus de ce mouvement alors émergent, qu'Angel Witch va connaître son premier succès en 80 avec un morceau qui s'appelle Baphomet. La compile en question, si ça vous intéresse, elle s'intitule Metal for Mutas et elle contient aussi 2 morceaux de Maiden et un de Samson, dont le chanteur s'appelle à l'époque Bruce Dickinson. Toujours en 80, Angel Witch sort son premier album éponyme qui va devenir son disque de référence. Il sera suivi de Screaming and Bleeding en 85 et puis Frontal Assault en 86. Et puis ensuite, il faudra attendre 2012 pour voir paraître l'album Us Above So Below qui a reçu un accueil quand même relativement mitigé, il faut bien l'avouer. C'est pas grave, depuis Angel Witch semble enfin avoir trouvé un line-up à peu près stable, une solidité que les fans ont d'ailleurs pu constater en live. Et maintenant, il est enfin l'heure de concrétiser cette renaissance avec Angel of Light, leur 5e album qui est paru vendredi dernier et qui renoue avec cette grande époque de la New Wave of British Heavy Metal et qu'il fait d'ailleurs avec talent. Les compos, elles sont signées du frontman Kevin Ayborn et on peut dire qu'elles sont inspirées, robustes. Elles sont soutenues par une section rythmique qui est musclée, qui est précise, sans oublier la très belle prestation du guitariste soliste Jimmy Martin qui forme un duo guitaristique imparable avec Ayborn qui lui a rien perdu de son talent pour dégainer des riffs bien sentis. Angels of Light, c'est un album qui sonne certes un petit peu old school, mais c'est un album réussi qui remet Angel Witch sur les rails avec, qui sait, peut-être un regain de popularité, ce serait en tout cas bien mérité. On écoute un extrait d'Angel of Light avec un titre qui s'appelle Don't Turn Your Back. Tout de suite, voici Angel Witch. C'était Angel Witch à l'instant avec Don't Turn Your Back, extrait du nouvel album Angel of Light qui est paru la semaine dernière. Angel Witch, groupe un peu pionnier hein, de la New Wave of British Heavy Metal dans les années 80, groupe formé à la fin des années 70, qui malheureusement a pas eu la même chance qu'un Iron Maiden ou qu'un Judas Priest, mais qui était bien méritant. Et voilà, c'est parce qu'ils ont pas eu de chance au niveau de leur carrière qui a été très chaotique, ils ont eu beaucoup d'obstacles. En tout cas, c'est peut-être le moment pour eux de faire un retour en force et pourquoi pas d'assister à une nouvelle vague de cette nouvelle vague de la British Wave, de la New Wave of British Heavy Metal. Je vais y arriver. Allez, on va se faire un deuxième extrait du nouvel album de Lofo qui, je vous le rappelle, paraît aujourd'hui. Un album qui s'appelle Vanité, qui est très réussi et qui nous dépeint nos gros travers d'humains, qui fait un constat assez incisif de l'homme, de la société, de l'humanité. Et on va écouter un deuxième titre qui est le morceau qui ouvre l'album. Ça s'appelle Bonne Guerre. Alors, encore une fois, des paroles qu'il faut écouter attentivement. C'est du Lofofora, c'est de la poésie, même si c'est parfois un peu acerbe. Voici tout de suite donc Lofofora avec Bonne Guerre. Bonne Guerre de Lofofora, extrait du nouvel album Vanité paru aujourd'hui. Album coup de cœur de cette émission du 8 novembre. On passe à la suite, on va revenir un petit peu sur octobre maintenant avec la sortie du nouvel album de Phil Campbell. Phil Campbell qui est de retour cette fois-ci en studio avec Old Lions Still Roar. Alors Phil Campbell, les origines, eh bien c'est Pontypridd au Pays de Galles en 61. C'est là que naît Phil Campbell qui commence à jouer de la guitare dès l'âge de 10 ans, influencé par Jimi Hendrix, Tony Iommi, Jimmy Page, Michael Schenker. Le jeune Phil Campbell débute ensuite sa carrière au début des années 80, et c'est en devenant en 84 le guitariste de Motorhead qui va se faire connaître et devenir une star du rock. Campbell d'ailleurs, il va sévir au sein de Motorhead jusqu'à la disparition de Lemmy fin 2015, disparition qui malheureusement va sonner la fin du légendaire combo. Et depuis, eh bien Phil Campbell, il a monté un nouveau projet qui est connu sous le nom de Phil Campbell and the Bastard Sons, pour lequel il est accompagné de ses trois fils, Todd à la guitare, Dane à la batterie et Tyla à la basse, et puis aussi d'un chanteur qui s'appelle Neil Starr. Et parallèlement à ce projet, qui d'ailleurs marche très très bien, hein, l'ex-Motorhead s'offre aujourd'hui une récré en solo avec l'album qui nous intéresse maintenant tout de suite. Un album bien sûr de hard rock, hein, puisque c'est le talent de Phil Campbell de faire du hard rock un peu heavy. Alors, côté discographie, juste pour votre culture personnelle, il faut savoir que Phil Campbell, il apparaît sur 17 albums studio de Motorhead. Et puis, concernant son nouveau groupe, donc Phil Campbell and the Bastard Sons, il a sorti un premier EP en 2016 qui a été suivi d'un premier album intitulé The Age of Absurdity, qui est arrivé dans les bacs début 2018 et qui a reçu un excellent accueil. Donc on peut dire que quand même, hein, l'ex-compère de Lemmy, il est bien occupé. Pourtant, il a quand même trouvé enfin le temps de concrétiser son projet d'album studio, qui était dans les tuyaux depuis un moment, depuis 99, selon l'aveu du guitariste. Un album solo, mais pas en solitaire, puisque Phil Campbell l'a enregistré entouré de ses fils, mais aussi de nombreux amis chanteurs et musiciens, comme Rob Halford, Danko Jones, Joe Satriani, Alice Cooper, ou encore Dee Snider et Mick Mars, qu'on va retrouver tous les deux sur le titre qu'on va écouter dans quelques instants. Et là, je vous ai cité que quelques noms, hein, le listing est bien plus long. Mais du coup, outre le casting 4 étoiles du disque, qu'est-ce qu'il en est de sa qualité? Eh bien, son titre résume parfaitement son contenu. Les vieux lions savent encore rugir et rugir très fort. On le constate tout au long des 10 titres qui composent l'album. Des titres qui sont à la fois directs, puissants, efficaces, authentiques. Phil Campbell et ses invités semblent vraiment s'éclater, mais tout en maîtrisant la chose. Et si, je vous jure, on les entend presque rugir de plaisir. En voici d'ailleurs la preuve en musique, avec un morceau qui s'appelle This Old Boots. C'est donc un featuring, comme je l'ai annoncé un peu plus tôt, avec l'ex-chanteur de Twisted Sister, Dee Snider, et le guitariste de Motley Crue, Mick Mars. Voici tout de suite Phil Campbell sur Back FM. We'll be right back. Old Boots à l'instant de Phil Campbell's avec pour ce morceau un featuring avec Dee Snider, l'ex-chanteur de Twisted Sister, et Mick Mars, le guitariste de Motley Crue. L'album solo de Phil Campbell s'appelle Old Lions Still Roar et il y a une kyrielle d'invités absolument prestigieux et sympathiques. Voilà, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Alice Cooper, Rob Halford, Joe Satriani. Et puis aussi des musiciens de la génération d'après. Voilà, très bel album, très réussi. Et Phil Campbell, voilà, il a encore le feu sacré en lui. Ça, on le constate tout au long du disque. Allez, il est l'heure de passer à la rubrique qui conclut cette émission. Malheureusement, je vais pas avoir le temps de vous diffuser tout ce que j'avais prévu, mais ça n'est que partie remise, on écoutera le reste la semaine prochaine, et on va terminer avec la rubrique Sortez Cover. Alors, l'info de la semaine, vous l'avez probablement lu ou entendu, c'est l'annonce de la reformation de Rage Against the Machine, alors du moins dans un premier temps pour une série de concerts dont quand même une date en tête d'affiche à Coachella, hein, qui est l'incontournable festival américain, et d'autres dates, mais alors je crois que ça se résume aux États-Unis pour l'instant. Donc, groupe emblématique de la scène rap metal des années 90, Rage Against the Machine avait créé à l'époque une sorte de révolution au sein de la planète metal, tant grâce à sa musique rageuse et groovy que grâce à ses textes extrêmement engagés et contestataires. C'est un groupe qui naît en 91, ouais c'est ça, à Los Angeles, autour de quatre musiciens. Il y a Zach de la Rocha au chant, il y a Tom Morello à la guitare, il y a Tim Comerford à la basse et puis Brad Wilk à la batteur. C'est des musiciens vraiment très talentueux et qui apportent vraiment une nouvelle fraîcheur à ce métal qui à ce moment-là est profondément ancré encore dans le grunge et qui a du mal à s'en décoller. Et eux, voilà, ils vont apporter quelque chose de nouveau qui va faire le bonheur finalement des ados de l'époque. Moi je me souviens qu'à cette époque-là, alors pas tout à fait au début des années 90, mais à partir du milieu des années 90, on se refourguait les uns les autres le premier CD de Rage Against the Machine qu'on recopiait sur cassette, et voilà, et ça voyageait comme ça de main en main. Donc justement, Rage Against the Machine dégaine sa première bombe en 92, c'est ce fameux album éponyme qui est célèbre aussi bien pour ses hymnes qui sont cultes comme Killing in the Name, Bomb Track, que par sa pochette Shock dont je vais vous reparler tout à l'heure. Ensuite, Rage va sortir trois autres albums, il y aura Evil Empire en 96, The Battle of Los Angeles en 99 et puis Renegades en 2000, qui justement est un disque de cover dont on écoutera peut-être un extrait d'ici quelques semaines. Et puis après, la même année que Renegades, ils vont se séparer. Alors depuis, il y a quand même eu quelques reformations sur scène, mais les membres de Rage Against the Machine, ils ont suivi des voies parallèles pour ce qui est de leur carrière. Il y a eu par exemple l'aventure Audioslave en compagnie de Chris Cornell pour Tom Morello, pour Comerford et Wilk. Ça a duré quelques années. Et puis plus récemment, il y avait eu un autre projet, Prophets of Rage, avec les trois mêmes. Et puis, par contre, au micro, on retrouvait des membres de deux groupes de hip-hop, de Public Enemy et de Cypress Hill. Et bah, ce groupe, Prophets of Rage, avait sorti un premier album il y a 2 ans, je dirais. Il y en a un qui était en préparation, mais là, la nouvelle de la reformation Rage Against the Machine, ça a mis fin à cette aventure qui était Prophets of Rage. Donc je sais pas si l'album qui était en préparation va sortir ou pas. Ça, on verra ça dans quelques temps. Quant à Zach de la Rocha, alors lui, il s'était fait plus discret que ses autres compères, et c'était en solo qu'il avait souhaité poursuivre sa carrière. Visiblement, ça a pas tout à fait bien marché. Donc, aujourd'hui, les voici enfin tous les quatre réunis pour notre plus grand bonheur, et on peut de nouveau rêver de les voir sur scène en France, pourquoi pas, et même rêver d'un éventuel nouvel album. Donc ça, encore une fois, c'est l'avenir qui nous le dira, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. En tout cas, cette excellente nouvelle, moi ça m'a donné envie de partager avec vous une reprise que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, de leur légendaire Killing in the Name, par un tout jeune groupe australien qui est originaire de Sydney, qui s'appelle The Kids, et qui joue un punk rock abrasif influencé par la scène des années 80-90. Alors d'habitude, la règle veut que cette rubrique Sortez Cover propose une reprise dans une version métal, mais moi je tiens absolument à ce que Check Me Load ce soit une émission qui est aussi une ouverture sur le punk, parce que le punk c'est finalement un peu le frère du métal, et puis c'est un genre que les métalleux apprécie beaucoup. Hein. Nombreux sont les métalleux qui aiment le punk. D'ailleurs, j'en fais partie. C'est quelque chose que j'adore avec des groupes comme NoFX, tout ça, que, dont je suis fan. Et en plus, bah, il faut dire que la cover de Ces Petits Jeunes, elle est vraiment très réussie. C'est frais, c'est ultra nerveux, c'est super efficace. Donc, bah, voilà, bravo à eux. Hein. Alors, juste avant d'écouter ça, je voudrais vous dire quelques mots sur Killing in the Name. Elle est parue en single le 2 novembre 92, la veille de l'album. Et comme la plupart des chansons du groupe, eh bien, Killing in the Name dénonce les liens entre le pouvoir en place et le Ku Klux Klan, comme en témoignent d'ailleurs les paroles qui disent « Certains de ceux qui travaillent au service de la force sont les mêmes qui brûlent les croix. Ceux qui sont morts sont justifiés en portant un badge. Ils sont les blancs élus. » Ça en dit assez long. La pochette du single, c'est la même que celle de l'album. Alors, elle est très très, elle est très choc, cette pochette, puisqu'on y voit l'immolation par le feu d'un moine bouddhiste qui s'appelait Kangjuk, j'ai dû écorcher son nom, je m'en excuse. C'était en 63 pour protester contre le meurtre de bouddhistes par le premier ministre, qui s'appelait lui Ngo Dinh-Diem. C'est une vraie photo, donc c'est là où c'est encore plus choquant finalement. Et d'ailleurs, c'est une chanson qui va avoir un impact extrêmement important aux États-Unis. Dès sa sortie, le succès va être retentissant. En France, ça va être un petit peu plus tard, puisqu'il va falloir attendre 94 pour que ça arrive jusqu'à nos oreilles et que ça fasse un carton chez nous. Mais bon, depuis, c'est bon, on s'est bien rattrapé. Et chez nous aussi, hein, ce morceau, il est totalement culte. Voilà, il est l'heure donc de découvrir le Killing in the Name de Rage Against the Machine, revu et corrigé par les Australiens de The Kids, tout jeune groupe que je vous conseille. Ils sont pas faciles à trouver sur internet, mais en fouillant un peu, on peut y arriver. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Il y aura une interview au programme. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end. Salut à tous, à bientôt sur Bac FM.
Told ya. Now you do what they told ya. Gotta do what they told ya.